On entend de plus en plus parler du potentiel de la réalité virtuelle dans le domaine médical. Il y a par exemple des chercheurs qui utilisent ces technologies-là pour soigner les douleurs fantômes que peuvent ressentir les personnes amputées. Le potentiel ne s'arrête pas là. Il pourrait même venir en aide aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale. On rejoint au bout du fil Stéphane Bouchard, professeur au département de psychoéducation et psychologie de l'Université du Québec en Outaouais. Bonjour, Monsieur Bouchard.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout d'abord à nous, néophytes, parce que vous êtes également titulaire de la chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique, c'est quoi exactement la cyberpsychologie?
La cyberpsychologie, de façon large, là, c'est l'étude du cyberespace ou d'un monde numérique artificiel recréé par l'informatique. Mais de façon plus concrète, on peut voir les exemples, par exemple, de la réalité virtuelle, où l'utilisateur, l'usager ou le client met ses lunettes et se retrouve dans un environnement 3D relativement ou extrêmement réaliste. Et quand on bouge la tête, quand on tourne alentour de soi, on se déplace, bien, l'environnement suit nos déplacements comme si on était pour de vrai. Et le psychologue ou le professionnel de santé mentale à l'écran à côté voit sur son écran ce que le client voit, ce qui nous permet de créer des contextes standardisés, mais qui se veulent chargé d'émotions à des fins thérapeutiques.
Et puis bon, l'image qu'on a souvent de la réalité virtuelle, vous l'avez mentionné, c'est l'exemple des lunettes que l'on porte. Mais vous, à l'Université du Québec en Outaouais, vous allez plus loin avec une voûte immersive carrément, une espèce de cube. En fait, ce qu'on comprend, c'est que c'est d'autant plus immersif que de porter de simples montures.
Tout à fait. Les environnements qu'on développe depuis 1999 ici à Gatineau couvrent l'ensemble du spectre des technologies possibles. On parle là, du visiocasque facilement disponible jusqu'aux voûtes, aux cubes immersifs de grande dimension là, où tu es debout. C'est le holodeck de Star Trek en fait. Tu es debout, il y a des images qui sont projetées sur les murs de toutes les faces, sont projetées en stéréoscopie, donc en 3D, et les objets flottent devant toi. Ce qui est intéressant à la voûte qu'on possède ici à l'UQO, c'est que les images sont projetées sur les 6 côtés, c'est-à-dire que le plafond, le plancher et la porte d'en arrière lorsqu'on ferme. Et donc, on est complètement immergé dans les environnements virtuels. Des voûtes à 6 faces comme ça, il y en a 10 dans le monde. Et la seule qui est dédiée à la santé mentale, c'est ici au Canada et à Gatineau que ça se passe. Parce que justement, on peut complètement bluffer le cerveau pour se donner l'impression qu'on est dans cet endroit virtuel-là.
Bluffer le cerveau, je pense que c'est le bon mot. Puis en ayant une voûte comme ça, il y a même moyen d'ajouter à l'expérience sensorielle, pas seulement avec la vue, mais également l'audition, le sens du toucher. Vous me parlez de mettre en contexte avec différents troubles psychologiques. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de comment la réalité virtuelle pourrait venir aider quelqu'un à combattre une phobie, par exemple?
Oui, mais dans le cas des troubles, de tous les troubles anxieux, phobie ou autres, l'ingrédient essentiel, et on sait que c'est vrai depuis une vingtaine d'années, là, c'est d'apprivoiser nos peurs progressivement. Et l'art de la psychothérapie, c'est de savoir comment le faire. Mais il faut apprivoiser nos peurs, alors qu'en réalité virtuelle, bien, on peut mettre nos lunettes, puis le psychologue, ça ne change pas la nature de sa thérapie. C'est juste que lorsqu'arrive le moment d'apprivoiser nos peurs, des araignées, des endroits clos, des hauteurs, des vols en avion, de parler en public ou n'importe quel trouble anxieux, bien, on met nos lunettes, puis là, on se retrouve dans cette situation-là, dans un restaurant où il y a des gens, puis on peut interagir avec des personnages virtuels ou dans une maison où sur le comptoir, il y a une araignée. Donc, le psychologue ou le professionnel de la santé mentale peut assister à son client pour apprivoiser ses peurs, mais dans la sécurité du bureau, au rythme qu'on a besoin, sans brusquer les choses.
La réalité virtuelle a ce luxe de permettre, en fait, un contrôle sur les phobies, ce qui fait en sorte qu'on ne confronte pas nécessairement quelqu'un à une peur de l'avion, à des turbulences en plein vol. On va y aller graduellement avec un vol ou même une entrée dans l'aéroport pour commencer.
Absolument, et c'est ça le plus gros avantage, c'est que c'est plus simple pour le professionnel de santé mentale de doser ce qu'on va faire vivre vraiment au rythme du client. Ça peut être moins coûteux également, parce que si on parle des vols en avion, le client n'a pas besoin de se déplacer et lui et moi prendre l'avion. Puis on peut faire des choses qui sont plus agréables dans l'intimité du bureau. Par exemple, justement, parler en public. Bien, j'ai pas besoin de recruter un public, ce qui pourrait impliquer des bris de confidentialité. Alors que là, je suis avec mon bureau, dans le client, ses lunettes. Puis si on enlève les lunettes, bien, on est juste tous les deux ensemble. Obsession-compulsion, stress post-traumatique, même chose. On est toujours dans le bureau et on peut faire vivre les choses au rythme où c'est nécessaire.
Donc, ce n'est pas de la science-fiction. On applique vraiment les mêmes notions de psychologie habituelles, mais avec un nouveau procédé, un nouvel outil qui est la réalité virtuelle.
Absolument, parce qu'il faut comprendre que l'ingrédient intéressant, au fond, c'est d'être capable de berner le cerveau et d'utiliser le fait que les émotions réagissent un petit peu plus rapidement que la logique, quelques millisecondes à l'avance. Donc, si on a les bons indices qui permettent de stimuler les émotions vont se déclencher et prendre toute la place chez l'individu, chez le client ou la cliente. Même si les gens vont dire, ouais, c'est pas logique parce que c'est virtuel. Oui, mais c'est pas grave. Les gens aussi, ils savent que leur peur, quelque part, elle est un peu exagérée. Uh-huh. Mais malgré tout, ils ont peur. Alors, en virtuel, on a la même relation, on a l'équivalent. C'est-à-dire que même si les stimuli sont virtuels, les émotions, elles, sont réelles.
Permet de contrôler un peu plus l'irrationnel. Également, ben, c'est étudié depuis quand même quelques années, cette idée-là que la réalité virtuelle peut venir en aide pour combattre les phobies ou les troubles obsessifs compulsifs. Mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin en l'utilisant pour, par exemple, combattre la déprime ou une dépression ou des cas plus majeurs?
Bien, on voit de plus en plus là, un foisonnement des applications de la réalité virtuelle. Des troubles anxieux, vous mentionnez les symptômes de membres fantômes. On commence à avoir des applications pour la schizophrénie, les troubles alimentaires, et des évaluations en neuropsychologie, en neuropsychiatrie. Et on s'en va aussi vers les troubles d'humeur, par exemple, les maladies bipolaires, les troubles de personnalité limite. C'est à la fine pointe de ce qui se développe dans les laboratoires, donc c'est pas toujours immédiatement disponible, comme c'est le cas pour nous avec les troubles anxieux, parce qu'on peut effectivement se procurer des environnements virtuels, pas les clients, mais les professionnels pour faire de la thérapie, mais des trucs pour la dépression et d'autres applications, je vous dirais, dans quelques années. On est encore dans le développement.
Grâce à votre expertise et celle de vos collègues, l'Outaouais est en train de se bâtir une petite réputation de plaque tournante de recherche sur la réalité virtuelle et vous allez même accueillir l'été prochain à Gatineau un congrès sur la réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez m'en dire un mot en terminant?
Bien, tout à fait. Du 26 au 28 juin, on reçoit le congrès ou l'Association internationale de cyberpsychologie, si je peux résumer ça ainsi. Et on va recevoir entre 300 et 500 chercheurs d'un peu partout dans le monde. Et les gens, s'il y avait des auditeurs qui font de la recherche dans le domaine, ils sont bienvenus pour soumettre des résumés. Et puis, il va y avoir des ateliers de formation. Il y a peut-être certaines activités ouvertes au grand public. Mais les dates à retenir, c'est du 26 au 28 juin à Gatineau, événement international de sciences sur la cyberpsychologie.
Oui, on sait qu'il y a d'autres universités au Québec, notamment à l'UQTR, qui fait des recherches sur le sujet. Merci beaucoup, M. Bouchard, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. C'est vraiment apprécié.
Ça fait plaisir.
Nous, on s'en va maintenant en musique, puis après, on sera de retour avec une dernière entrevue.